Bonjour, je suis Didi et je suis ravie de vous accueillir sur Le Grand Large, un podcast pour se reconnecter à soi, à l'autre et à la planète. Avec ce podcast, je veux donner la parole à des personnalités inspirantes pour qu'elles partagent avec nous des clés pour faire des choix plus éclairés. Bonne écoute! De votre petite cousine à votre vieil oncle, et ce, quel que soit votre milieu social, tout le monde, absolument tout le monde, porte des jeans. Rien d'étonnant quand on sait que chaque seconde dans le monde, ce ne sont pas moins de 73 jeans qui sont vendus. Un chiffre qui donne le tournis, encore plus quand on se penche sur la production d'un jean. Il faut entre 7000 et 10 000 litres d'eau, une cinquantaine de produits chimiques qui ont évidemment des conséquences sur l'environnement et sur la santé de ceux qui les produisent, et accessoirement, la bagatelle de 65 000 km, soit une fois et demie le tour de la planète, avant qu'ils n'atterrissent dans nos placards. De quoi nous donner envie de chérir un peu plus les denims qui ont élu résidence dans nos placards, et pourquoi pas de nous tourner vers la seconde main pour faire main basse sur de futures pépites. Mais pas n'importe comment. Comment dénicher votre futur jean de bonasse et en seconde main, s'il vous plaît? Je reçois Chloé, la géniale fondatrice de Numéro 2, pour en parler. Bonjour Chloé.
Salut.
Très très contente de t'avoir à mon micro. Ça fait un petit moment que je suis ton travail. Je suis déjà venue deux fois. J'ai deux jeans de bonasse absolus dans mon dressing. Et voilà, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît?
Alors, je m'appelle Chloé. Ça fait 5 ans que je vis à Paris. Et ça fait...
Tu viens d'où?
De Toulouse.
Ah.
J'ai grandi à Toulouse. Ça fait 2 ans et demi que j'ai monté Numéro 2.
Alors, est-ce que tu veux nous expliquer exactement ce qu'est Numéro 2?
Alors, Numéro 2, c'est un concept dans lequel je vends des jeans, principalement Levi's. Tous vintage, mais uniquement sur rendez-vous. C'est-à-dire que tu ne peux pas venir chez Numéro 2 à l'improviste et si tu n'as pas de rendez-vous. C'est un peu un concept qui change par rapport au friperie, je trouve, et un peu par rapport à ce qu'on peut trouver sur l'offre en boutique. Parce qu'en fait, je trouve que le jean est un excellent basique, mais qu'il faut prendre du temps pour le choisir.
Mmh.
Et en général, c'est tellement un fléau de choisir un jean dans des cabines d'essayage que je me suis dit, en fait, il faut essayer de revoir cette manière-là, de l'acheter et de le choisir. Et donc, du coup, c'est comme ça que sont venus les rendez-vous.
Et oui, parce que là, on enregistre dans ton showroom, parce que tu as un showroom depuis quelques semaines, quelques mois, là, ça y est?
Quelques mois,
ouais. Ouais, un super petit cocon tout douillet avec des piles de jeans. Et c'est vrai que moi, ce que j'ai aimé dans cette expérience, parce que, évidemment, je connaissais le principe de la seconde main et du jean en seconde main, donc j'avais déjà été en friperie, et puis des friperies plutôt cool, tu vois. À Paris, on est quand même assez gâtés. Et à Toulon aussi, je rappelle que j'ai fait une super vidéo sur ma sélection d'adresses de friperie à Toulon. Mais bref, on a quand même une offre en France en seconde main qui est assez riche partout. Mais c'est vrai que ça donne pas envie parce que déjà, il y a toujours cette odeur caractéristique des friperies qui personnellement me rebute.
Hein. Moi aussi.
Je suis un peu ma chouchoute, mais voilà.
Ouais,
je trouve ça assez dur. Et c'est vrai que même si tu as des piles qui sont quand même organisées par taille, etc., tu as tellement de coupes différentes que finalement, tu es complètement paumé. Toi, tu te vois pas en 3D, donc globalement, tu l'essayes, tu te vois de face, vaguement de profil. Tu sais pas trop, donc éventuellement, tu peux y aller avec une copine qui va te dire « Ouais, ok, ça c'est bien, pas bien. » Mais toi, la plus-value, c'est quand même que tu as un œil, un vrai conseil. Ça m'a fait halluciner. C'est-à-dire que les deux fois où je suis venue choisir un jean, donc on a beaucoup parlé, parce qu'on est très bavards toutes les deux
parlé.
Et que j'avais beaucoup de questions. Ce qui m'a bluffé, tu vois, c'est que tu as des centaines et des centaines de jeans, alors une sélection énorme, et en fait, tu m'as sorti à chaque fois un jean, et c'était le bon. Donc, on en a essayé à chaque fois un deuxième et éventuellement un troisième parce qu'on est là quand même pour essayer des jeans.
Pour voir.
Mais tu vois, moi, ce qui m'a bluffé, c'est qu'en 2 secondes 30, tu es capable quand même d'identifier la coupe ou le modèle qui va vraiment aller à la personne.
En fait, là, maintenant, au bout de... Alors, ça fait déjà un petit moment, mais au début, j'y allais à tâtons. Tu vois, je demandais, quand tu prends rendez-vous, il y a un petit questionnaire à l'entrée pour savoir un peu ce que tu recherches en couleur... Je voulais savoir aussi quelle était ta taille.
Ouais.
Et en fait, là, aujourd'hui, j'avoue que je fais beaucoup à l'œil. Et en fait, j'ai réussi un peu à cerner les différentes morphologies, les tailles. Et en fait, maintenant... Mais après, je pense que comme dans tout corps de métier, quand tu fais ça depuis un petit moment, tu finis par savoir. Maintenant, quand j'ai une cliente qui arrive, j'arrive à déterminer quelle va être sa taille et à lui donner.
Mmh.
Par contre, je ne parle pas de taille. Parce que ça n'a pas d'intérêt, parce que c'est des tailles vintage. Et qu'en fait, et ça, j'ai beaucoup de clientes qui me l'ont fait remarquer. En fait, à aucun moment, je ne te mets dans une case de...
Ça, c'est génial.
Tu fais un 36, tu fais un 40, je vous passe un 42. En fait, ça n'a aucune plus-value.
Ouais.
toi, ça te plaît jamais de savoir quelle taille tu fais et ça te freine même un peu. Moi, je sais que j'ai longtemps été regardante sur le chiffre. Là, je trouve qu'il faut essayer de te regarder dans le miroir et te dire « Ok, ça, j'aime pas ». Et de te projeter, en fait, sur ce que ton image renvoie et pas sur le chiffre de la taille.
Qu'est-ce qui t'a donné envie de monter ce concept ?
En fait, moi, quand je suis arrivée à Paris, avec mes petites idées, je me suis dit, je vais me trouver... en fait, j'avais identifié déjà que le jean que je mettais le plus, c'était un 500 vintage que j'avais trouvé en friperie à Toulouse. J'ai continué d'en acheter d'autres chez nos amis de la fast fashion. J'en avais beaucoup. J'avais une vingtaine de jeans et je les avais comptés. Et en fait, je me suis dit, tu ne mets que ton 501. Et quand je suis arrivée à Paris, je me suis dit, là, de toute façon, c'est très simple. Je vais me créer une petite collection de 501 et l'affaire va être pliée. Et en fait, j'ai été dans plusieurs friperies en disant, en gros, je ne sais pas, donnez-moi des 501 à ma taille, quoi. On ne m'a pas envoyé chier, mais presque. Les gens n'étaient pas là pour m'aider. Ensuite, on me disait, là-bas, vous avez les jeans, essayez. Et en fait, là, je me suis confrontée au truc et je me suis rendu compte que c'était hyper compliqué parce qu'en fait, j'étais toute seule pour essayer.
Ouais, c'est ça, ouais.
Donc, tu ne connais pas les tailles parce qu'à ce moment-là, je ne connaissais pas les tailles des Levi's. T'essayes, c'est souvent trop long, c'est souvent trop large, donc tu ne te projettes pas du tout. Donc, j'en ai fait quelques-unes comme ça. Je me suis dit, franchement, les friperies, c'est mort, j'arrête, ça me saoule. Je suis allée un peu faire un tour au bon marché. Alors là, au bon marché, c'est très beau.
Le corner jean.
C'est un bar à jeans, c'est magnifique. Alors là, par contre, douche froide, il y a des très beaux jeans. Je pense que le prix d'entrée est à 250€.
Donc, tu as quand même du Levi's, qui doit être un peu moins cher. Mais en dehors du Levi's, tu n'as que des très belles marques niches, hyper pointues, hyper chères.
Et tu vois, tu avais du Redon qui est très beau. En fait, eux, ça a été les pionniers à l'époque à sourcer des Levi's vintage.
Ah ouais.
Et en fait, à les revendre, à les remettre un peu à neuf et à les revendre en l'état. Mais en fait, c'est une marque un peu de niche. Eux, leur premier prix, c'est 250-280€. Donc, pour te créer une petite collection...
Oui, il faut y aller.
Voilà, exactement. En fait, j'étais un peu dans une impasse en me disant, mais c'est quoi ce truc autour du jean ? T'as soit la fast fashion, c'est cata. Je me suis rendu compte aussi qu'en fait, quand ils te vendent un jean 100% coton et tout, c'est pas du 100% coton. Il y a toujours 1% d'élastane. Et ce pourcentage d'élastane va faire une énorme différence parce que ton jean, il va se détendre. Au bout de quelques mois et de très peu de lavage, il est plus du tout très beau.
Oui, il est pas pensé pour durer de toute façon.
Non, c'est un jean mouchoir, quoi. Tu vois, tu le mets quelques fois et au bout de 3 mois, il faut que tu le changes. C'est aussi leur but. Et en fait, je me suis dit, clairement, il n'y a rien. Donc, un jour, je me suis dit, tu vois, un peu utopiste, si jamais je lâche mon boulot...
Parce que tu faisais quoi, d'ailleurs ? Je ne t'ai même pas demandé. Ouais.
J'étais commerciale dans une boîte qui faisait de la réservation en ligne pour les instituts de beauté. Et c'était très cool. C'était une start-up à Paris. C'était une très, très bonne école. Mais un jour, j'en parle avec justement un collègue à moi et je lui dis, non, mais moi, j'adorerais... ouvrir un énorme concept de jean.
T'avais déjà une idée assez claire, finalement, du projet.
Elle était quand même très différente. Parce qu'au début, j'aurais aimé travailler avec du vintage et du neuf, et avec plein de marques. Et en fait, après, je me suis rendu compte que ça allait être trop compliqué. Le fait d'être une boutique, je me suis dit, tu vas devenir une boutique peut-être parmi toutes ces boutiques, surtout à Paris, où il y a quand même déjà un énorme choix.
Une offre assez pléthorique.
Voilà. Et donc, en fait, après, c'était un peu une idée de ma mère, mais qui me disait... j'avais un appartement qui était un peu fait pour. J'avais une deuxième pièce qui était mon dressing avec mon mec, mais en soi, qui n'était pas hyper utilisé. Et elle me dit, commence doucement.
Très bonne idée, maman.
Ouais, exactement. Toutes les mamans ont toujours... Ouais. Et je me suis dit, je vais commencer là. Et comme au début, te constituer un stock, c'est quand même très dur, surtout dans le vintage. Je me suis dit, je vais filtrer un peu la demande. Je vais demander à mes futurs clients de m'envoyer une idée de leur taille, de ce qu'elles cherchent. Et comme ça,
tu vas chercher... Finalement, la pièce pour elle.
Ouais,
quoi,
et je vais te faire une petite sélection. Et au début, je vais te faire une petite sélection de 2-3 pièces que tu vas pouvoir venir essayer sur 1 heure de rendez-vous. Puis en fait, après, tu te constitues un stock et puis tu mets un vrai agenda en ligne en place avec un vrai questionnaire. Et après, tu ouvres un showroom peu dédié à ça parce que du coup, beaucoup de jeans chez toi, ça commence à faire trop.
Oui, c'est clair. Comment justement tu sources ces jeans ? Tu vas les acheter en gros ?
Je vais les acheter en gros. Il y a des grossistes, en fait, t'en as 2 très gros en France dans lesquels je vais pour les acheter. Eux, en fait, c'est des grossistes de vintage. Ils travaillent avec des friperies partout en France, à Paris, au Japon. Eux, ils reçoivent une quantité, Mais ça, je ne sais même plus, mais ça se compte en tonnes par semaine. Ah ouais. C'est des hangars, en fait. C'est des hangars de vêtements. Donc...
Mais tu montrais en story, c'était fou. Ouais. La dernière fois que tu y as été avec tes sacs énormes et les palettes entières de jeans, ça donne le tournis.
C'est comme une énorme boutique dans un énorme garage, quoi, un hangar. Et en fait, tu as le coin des sweats, tu as le coin des chemises, tu as le coin des jeans. Donc chacun, donc il y a des trieurs là-bas qui trient par état, donc par grade A, B... par marque, machin. Et donc, moi, j'y vais là-bas. Donc, moi, mon but, c'est de choisir à la pièce. Donc, ça, tu le payes plus cher.
D'accord.
Mais je ne veux pas acheter en lot. Je ne suis pas une friperie.
Ouais, j'ai... mais surtout que ça fait du déchet, en fait. Parce que globalement, si tu n'utilises pas toutes les pièces que tu achètes, qu'est-ce que tu en fais derrière, quoi.
Exactement. Et en fait, dans les lots, et c'est aussi leur but, c'est qu'ils se débarrassent de pièces qu'ils ne vont pas vendre. Et moi, ça, je ne veux pas trop parce que mon but n'est pas de faire de la masse non plus. Je veux vraiment vendre une pièce qui ensuite va être énormément portée.
Ouais. Et... oui, ça serait un peu dissonant quelque part, ouais, d'essayer de proposer un produit en seconde main et de le revaloriser et à la fois générer par ailleurs du, ouais, déchet sur des pièces que tu n'utiliseras pas, quoi.
Exactement. Du coup, je choisis à la pièce. Le seul problème, entre guillemets, c'est qu'eux sont moins fournis aussi. Je ne sais pas quelles sont leurs sources, hein, bien sûr, mais je sais qu'ils ont des jeans qui arrivent un peu de partout, d'Europe, d'Allemagne, je pense peut-être même des États-Unis. Et en fait, eux sont moins fournis parce que nos chers 501 vintage ont dormi dans les entrepôts pendant des années quand nous, on s'intéressait au slim. Donc, il y a 10-15 ans. Et en fait, aujourd'hui, plus personne ne veut des slim. Tout le monde veut un peu du jean droit, très brut, avec un beau coton. Et en fait, ça, aujourd'hui, c'est une denrée qui est très rare. Quand j'ai commencé, il y a 2 ans et demi, on m'avait déjà mise en garde en me disant...
ah ouais.
Diversifie un peu ton offre.
Ne prends pas que du 500.
Oui. Hein. Ne prends pas que du 500. T'es trop niche, quoi. Tu vois, enfin, c'est trop spécifique. J'étais très têtue, donc j'avais dit non, je veux commencer avec le 501 vintage, je veux rien vendre d'autre. Ce que j'ai réussi à faire quand même, je pense, au moins une bonne année. Et après, j'ai des clientes qui m'ont dit, en fait, on adore le concept de rendez-vous. On aimerait que tu vends d'autres choses. Donc, je les ai un peu écoutées et tout, mais le jean reste quand même...
C'est ton cœur de métier,
ouais, ouais,
et
ouais,
d'expertise, finalement.
Exactement. Ouais. Ma porte d'entrée et surtout, mes clientes viennent principalement pour ça. Tout le monde veut un joli jean.
Oui, parce qu'attends, tu me disais, quand on discutait tout à l'heure, que sur des chiffres de jeans, il y a combien il y a ?
Alors,
c'est hyper intéressant.
C'est 63% des femmes qui portent un jean le soir pour un date.
C'est ouf.
C'est ouf. Et 73% de manière quotidienne le soir. C'est énorme. En fait, aujourd'hui, tu te rends compte que le jean n'est plus juste un vêtement pour aller... enfin,
ouais, le week-end, quoi.
Ouais, tu le vois partout quand tu regardes... Puis
sur tous les âges. Ma mère, elle a plein de jeans. Enfin, elle est encore jeune, c'est pas ce que j'entends. Mais...
Non, sur tous les âges, c'est un vêtement qui est tellement simple à associer à ta garde-robe. En fait, je trouve que quand t'as le bon ou les bons, ta garde-robe devient tout de suite plus simple parce qu'un joli jean va te permettre de porter un je sais pas, ta chemise, ton pull, simplement sans trop te prendre la tête. Dans un jean dans lequel tu te sens jolie, le taf de ta tenue est déjà fait.
Ouais, tout le reste suit.
Ouais,
en fait.
Franchement, ça,
c'est ouais,
hyper facile.
C'est vrai, ouais. Et tu peux vraiment le compiler avec plein de formes en haut différentes, quoi.
Oui, la première, pour tous mes derniers anniversaires, depuis 3 ans, je suis à chaque fois en jean. Mais en fait, ton jean, et c'est ce que je dis souvent à mes clientes, en fait, tu peux beaucoup l'habiller. Il peut être très sapé, ton jean, comme il peut être très cool. Tu peux aller au parc avec un jean très confortable. Mais si tu lui associes une chaussure un peu habillée, un peu féminine, une chemise, en fait, ton jean, il peut être très élégant.
Ce qu'on avait peut-être moins en notion il y a encore quelques années.
Oui,
moi, je me souviens, mon mec, dans son taf, n'avait pas le droit de porter des jeans au début de sa carrière.
Oui.
Il y a quelques années.
Il y a encore beaucoup de boîtes. Moi, j'ai
encore
beaucoup de clientes qui ne sont pas autorisées. Mais parce qu'en fait, le jean est trop resté connoté... tu vois, le vêtement du vendredi, enfin, je ne sais plus comment c'était.
Casual,
ouais, exactement. Friday, ouais. Et en fait, c'est un peu le vêtement à la cool qu'on porte le dimanche, alors que pas du tout, ton jean peut être... Enfin, moi, je trouve qu'il peut être vraiment très...
Non, mais c'est certain. Et toi, tu dirais que, justement, en ayant cette expérience de la seconde main, le jean, il était plus quali avant, vraiment ? Ou,
oui.
on continue à trouver des belles pièces sur le marché ?
Alors, le jean était plus quali avant, c'est indéniable. Déjà, moi, le jean... que j'achète, il pèse environ 750 grammes,
ah ouais,
à peu près. Donc, c'est énorme.
C'est fou. Ouais.
Tu vois, je n'ai pas comparé avec un jean d'aujourd'hui, parce que je n'ai pas de jean d'aujourd'hui. Mais j'avais une cliente qui me l'avait dit, il fait la moitié, il doit faire 300 grammes. Donc déjà, tu
c'est
vois...
dû à quoi ? Au tissage ?
Ouais, c'est au tissage, en fait. C'est au
à la qualité
ouais,
du tissu.
C'est le coton.
Ouais.
En fait, aujourd'hui, produire un jean comme il était produit il y a 30 ans, ça coûterait trop cher aux marques. Et ensuite, ça leur... en fait, il serait vendu trop cher. Je pense qu'aujourd'hui, un jean de bonne facture, tu peux facilement le payer 300 €. Mais ce qu'il les vaudrait, parce que le jean va tenir... C'est faux qu'un jean peut tenir 50 ans. Si tu ne le portes pas, oui. Mais un jean, si tu le mets, il va s'user. Et il va avoir un usage normal. Mais par contre, ton jean, il n'est pas censé faire 2 mois.
Oui, c'est ça. Ou même un an, quoi.
Ouais, ou même un an, tu vois. Il n'est pas censé se déformer au lavage. Il n'est pas censé se déformer
Non, mais c'est très vrai ce que tu disais sur la fast fashion. Moi, il y a très longtemps, j'achetais effectivement mes jeans dans une enseigne espagnole, bien connue. Et j'aimais bien les coupes, en fait. Elles m'allaient vraiment bien. Enfin, je me sentais bien dedans, en tout cas. Et ça coûtait clairement pas cher. C'était aussi mon pouvoir d'achat de jeune étudiante, etc. Sauf que, très clairement, ça se déformait très vite. Au niveau des genoux, tu avais le tissu qui prenait une forme un peu de poche, tu vois, qui n'était pas très élégante. Ouais. Les fesses, très vite, ça baillait un peu sous les fesses. Très clairement, c'était pas fait pour durer. Donc, un jean, ça, c'est pas censé durer un an, quoi.
Non. Non, non, c'est pas censé durer un an. Et surtout, ceux-là, les vintage, ils étaient tellement bien fabriqués dans des pays... tu vois, moi, j'ai pas mal de jeans qui ont été faits aux États-Unis, en France, en Angleterre, en Espagne. C'était pas des jeans qui étaient faits en Chine.
En Chine, on peut pas trouver du bon jean parce que tu sais, souvent, la réalité de la production en Chine, c'est effectivement beaucoup de travail peu qualifié et peu rémunéré avec une exploitation des travailleurs et une pollution de l'environnement, etc. Bon, voilà. Mais tu as quand même des très bons ateliers qui sont certifiés, audités, etc. Pour toi, un bon jean est quand même, malgré tout ça, pas fait en Chine, quoi. La question piège. De toute façon, en plus, tu es plus spécialisée sur la seconde main que sur le neuf. Donc c'est
Le Japon, oui. Parce que le Japon a une vraie technique de tissage. Enfin, il y a un coton qui est très beau au Japon. Tu as notamment une marque qui s'appelle Edwin. Je commence à en vendre des...
Ah ouais
des...
Tu les trouves en seconde main, ça y est.
Et en fait, je m'y suis intéressée parce que les coupes sont très belles et que le coton est très beau. Et en fait, c'est ce qui m'intéresse principalement. Et c'est une marque qui est japonaise. Donc quand tu attrapes l'étiquette, tu as un petit... après, tu comprends et le jean est très bien fait. Après, aujourd'hui, en Chine, moi, je le vois surtout au poids. Tu le vois tout de suite quand ton jean, il est de bonne qualité. Et je trouve que la Chine a de très beaux ateliers. Je pense notamment à de la soie, tu vois.
Oui.
Voilà. C'est
un travail séculaire et un savoir-faire séculaire, surtout, qui peut quand même être pérennisé aujourd'hui.
Ouais, complètement.
Même si c'est en Chine. Bon, ça ne résout pas le problème de l'empreinte carbone.
Non, je suis complètement d'accord. Mais je pense que la Chine aujourd'hui... Après, le jean pollue tellement qu'il soit fabriqué au Portugal, dans des pays frontaliers. Enfin, en fait, ça ne résout rien, entre guillemets. Enfin, je l'avais, c'était un peu ma phrase d'accroche au tout début sur mon site quand j'ai commencé. En fait, le jean, c'est l'équivalent d'un an de douche. Parce qu'on te dit, c'est entre 7000 et 12000 litres.
Oui, finalement, c'est ce que j'ai dit en intro, ça ne parle pas forcément. 3000, on n'a pas d'ordre de grandeur. On comprend que c'est beaucoup, parce que 3000 litres, quand même,
c'est beaucoup.
Mais effectivement, convertir en douche, c'est pas mal. Ouais.
Oui, tu as plein de sources d'informations qui te disent que c'est entre 3000 et 12000 litres. Et en fait, ouais, l'équivalent d'un an de douche par personne, sais que... Il en est vendu environ 73 par seconde.
Non, non, mais ça, c'est
dans
du
le
délire.
Monde.
Non, non, mais c'est du délire.
Enfin, tu vois, c'est des chiffres, ça te...
Ça donne le tournis,
ouais,
quoi.
Ouais, ouais. Et aujourd'hui, moi, je trouve que... Alors, même si, oui, je galère à les trouver, c'est très compliqué et tout, je trouve que rien ne justifie aujourd'hui de fabriquer encore et encore.
Un nouveau jean, ouais. Et puis, d'une manière générale, d'autres fringues que tu peux trouver.
Ouais, oui, oui.
Oui, parce que tu t'es diversifié un petit peu quand même. Donc, tu as le jean, j'ai vu que tu proposais des trenches, des très beaux trenches avec des coupes incroyables.
Ouais, j'ai trenches que les Burberry. Parce que
tu prends du Burberry, ouais.
Je prends que les Burberry, que des vintage. Donc, en général, tu trouves encore les poches à l'ancienne. Ouais. C'est des trenches d'hommes.
J'adore, j'en ai trouvé un, moi, sur Vinted. Oui. Que j'ai quand même payé, c'était pas donné, hein, mais je crois que je l'ai payé quand même dans les 200 €, ce qui n'est pas cadeau. Bon, enfin, quand tu regardes le prix d'un Burberry neuf, déjà, tu te dis que c'est quand même pas mal.
Exactement.
Et je l'adore. C'est une coupe homme. Tu sais, il est un peu... il est hyper dégaine, il est assez grand.
Il est très beau, le sien.
Il y a une doublure que je peux boutonner par-dessus, la doublure avec la petite trame qu'on adore, Burberry. Enfin, il est dingue, quoi.
Oui.
Et c'est une coupe que je n'ai pas retrouvée aujourd'hui.
Non, et surtout, si tu allais essayer aujourd'hui un trench Burberry, en fait, ils sont un peu pas comme cartonné, mais presque.
Ah ouais.
En fait, tu vois, ils ont un coton qui est beaucoup plus presque rigide. Et en fait, il est beaucoup moins joli en tombé.
Bah, du coup, le tombé n'est pas le même, quoi.
Et moi, je vois en vendant des vintage, en fait, ils sont sublimes. C'est pareil, c'est très dur à trouver. Un beau trench qui a quelques années, qui est en bon état, parce que je ne veux pas vendre un trench qui soit troué, taché et tout. Ouais. Donc ça, c'est très compliqué. Mais c'est des très belles pièces. Et en fait, mes clientes qui s'en offrent un, soit elles le cherchent depuis longtemps, soit alors c'est au gros coup de cœur. Et en fait, elles sont complètement conquises par le produit. Mais j'aime cette idée de ton trench, tu vas pouvoir le mettre mais des années, le transmettre, peut-être.
C'est ce que j'allais dire.
Enfin, tu vois, toi, tu pourrais complètement le léguer à ta fille dans quelques années.
Ou à mon
années.
Fils, puisque c'est une coupe homme.
Ouais, ouais, non, mais en fait...
Puis il porte des robes de princesse, je rappelle, donc ça lui fait pas peur, le trench, je pense.
Non, mais tu vois, en fait, t'as ce truc de... tu vas pouvoir léguer des très belles pièces, parce qu'en fait, ton trench, dans 20 ans, en fait, il sera à moins d'une grosse catastrophe à vélo, tu vois, mais... Sinon, il sera toujours en très bon état, et ce qui n'arrive plus aujourd'hui avec les fringues qu'on achète actuellement.
Ouais, non, c'est clair.
Ton trench, dans 2 ans, il est... Oui, et puis la coupe sera démodée.
C'est la coupe aussi, c'est surtout ça. Ouais.
C'est qu'en fait, on revient... mais tout le monde retourne un peu à... Enfin, on ne le voit pas assez, parce que moi, je regarde pas les défilés, je regarde pas non plus... Mais tu vois, je sais que Céline s'inspire beaucoup du vestiaire d'époque. En fait, tu vois qu'ils ont fait une veste de chasseur, style Barbour, style... style veste de chasseur d'il y a des années.
Sûr, ouais.
Ils sortent des marinières un peu oversize, comme on avait l'habitude de voir. De toute façon, on l'a tous dit, la mode
est un éternel recommencement.
Exactement, et en fait, t'as pas l'impression. Mais aujourd'hui, moi, j'ai des clientes, alors c'est souvent les filles de mes clientes, mais qu'ont 17-18 ans, et en fait, elles portent les jeans comme il y a quelques années, comme toi et moi aujourd'hui, on ne le porterait pas, très taille basse, très large. Mais en fait, tu vois bien qu'elle s'intéresse à une autre époque de porter le... Fin...
Non, et puis je pense qu'on revient aussi, je ne sais pas si c'est moi qui suis hors sol et déconnectée parce que je suis à fond dans la seconde main, dans la revalorisation, dans trouver son style, trouver sa patte, arrêter de partir le nez au vent à la moindre tendance, te ruiner dans des sapes que tu vas mettre 3 fois parce que finalement, elles ne te ressemblent pas. Elles sont juste tendances, tu as envie de les avoir parce que tu sais ton petit graal personnel, mais en fait, ça ne te va pas. Donc, tu finis par les dégager de ton dressing parce que ça prend trop de place et que au passage, tu as perdu de la thune. Donc, je ne sais pas si c'est moi qui suis trop dans cette mouvance-là pour être vraiment avoir une vraie, tu vois, vision du marché. Il faudrait que je me renseigne un peu plus et que je bosse un peu plus le sujet, tu vois. Mais j'ai quand même l'impression qu'on a tous un peu compris que c'était bien aussi de s'exprimer à travers le vêtement et de trouver ce qui nous va vraiment.
Oui.
Et en l'occurrence, toi, c'est ce que tu fais. T'aides les femmes à trouver un jean qui les met vraiment en valeur et qui ne va pas ressembler... tu vois, ce qui, toi, te met en valeur, et c'est là où aussi j'admire ton travail, c'est qu'on a toutes des morphologies et des silhouettes différentes, sans même parler de la taille. Une personne qui fait un 40, ça ne va pas être la même chose selon qu'elle ait des hanches, pas de hanches, plus de fesses, moins de fesses, etc. Donc, je trouve que c'est difficile, finalement. Aujourd'hui, on nous a proposé une mode qui est très standardisée, à la fois en termes de proposition, mais aussi à la fois en termes de taille. Et ça, c'est un vrai sujet. Et je pense que, en tout cas, moi, ce que j'aime en venant chez Numéro 2, c'est que j'ai l'assurance de trouver un jean qui va vraiment coller parfaitement à ma silhouette parce que, justement, tu vas le faire retailler. Et toi, du coup, comment tu arrives à... Parce que tu disais, c'est l'expérience, c'est voir un peu les profils, c'est te renseigner, prendre 2-3 informations en amont du rendez-vous. Je trouve ça hyper dur, en fait, d'arriver... Enfin, tu vois, vraiment, tu me bluffes, quoi. Quand t'as sorti les 2 jeans que j'ai pris, franchement, à chaque fois, c'était le premier. Et rappelle-toi, on avait essayé quand même 1 ou 2 derrière, en mode, bon, attends, c'est peut-être un coup de chance, peut-être il y aura mieux. Mais non, en fait, il n'y avait pas mieux. C'était juste pile le bon jean, quoi. C'est quoi tes conseils, en fait, que tu pourrais donner, tu vois, aux filles?
Moi, je trouve, ça reste personnel, mais moi, je trouve qu'un jean droit, et toujours pareil, avec un beau coton... fera l'unanimité. Je trouve que globalement, il va quand même à tout le monde. Après, tu vas avoir des corps et des morphologies où j'ai notamment beaucoup de clientes qui ont plus de fesses et des hanches vraiment... une taille très marquée. Et donc là, ce qui va être plus joli, ça va être un jean qui va plus emboîter le haut du corps, qui va être un peu plus taille haute. Le problème, c'est que déjà, toi, en général, tu ne sais pas trop te définir.
Non.
Donc, tu ne sais pas dire un peu comment tu es. Tu ne sais pas dire ce qui te va bien. Je suis là aussi pour t'aiguiller et t'aider sur ça. Moi, le but, ce n'est pas de vendre le jean, c'est que tu portes le jean. Et c'est un peu là aussi, peut-être, ma différence par rapport à certaines marques boutiques, c'est qu'en fait, Vendre pour vendre, à la limite, ça ne m'intéresse pas trop. Mmh. Ce qui va m'intéresser, c'est que tu portes ton jean, que tu l'uses, que tu reviennes.
Que tu te sentes bien dedans.
Que tu te sentes bien dedans, que tu te sentes hyper jolie. Moi, j'ai eu beaucoup de clientes qui sont reparties presque avec les larmes aux yeux, en me disant « mais merci ». J'en ai eu une hier qui m'a dit « en fait, tu as fait de l'essayage de jean un bon moment ». Alors que c'est une corvée pour toutes. Tu sais, presque, à un moment, tu te dis presque tu vas
tu
faire les courses.
Tu lâches l'affaire, tu vas en te bouchant le nez et en fermant les yeux.
Non,
quoi.
Mais tu vas faire les courses et tu te dis, bon, il faut que j'aille m'acheter des jeans. Et en fait, c'est un peu une plaie parce que tu sais que dans la cabine, tu vas pas te plaire. Tu sais que ça va être
une bonne lumière bien crue, dégueulasse.
Voilà, et tu te sens toujours affreuse et tu te dis toujours, bon, bah, franchement, c'est pas pour moi.
Tu proposes des maillots, Chloé.
Ouais, voilà. Non, mais ouais. Non, mais oui, mais
parce que franchement, je sais qu'il y a un boulot en matière de cauchemar, on peut y aller.
Ah ouais, tu vois tout ton corps et tout. Enfin, bref, rien qui va. Et en fait, je trouve que le jean, le jean vraiment droit. Après, oui, il y a un positionnement de poche à l'arrière sur les fesses. Donc là, c'est compliqué de te l'expliquer comme ça. Mais en fait, Levi's a aussi, je pense, hyper bien œuvré pour ça. C'est qu'en fait, tu as un positionnement sur les poches des Levi's et notamment des vintage qui fait qu'en fait, ça te fait vraiment un cul de rêve. Ça vaut pour les jeans d'époque, donc d'il y a 30 et plus. Aujourd'hui, ils ont un peu, je ne sais pas comment t'expliquer, mais écarté les poches.
Ah ouais, mais c'est bizarre parce que ils ont quand même intérêt à ce que ça taille, quoi.
Il y a des jeans sur lesquels c'est pas joli. En fait, au lieu de te faire franchement, crûment, un petit cul, ça te l'élargit et c'est pas saillant. Et moi, mon but, c'est d'être complètement transparente avec mes clientes. Et franchement, j'en ai déjà qui sont soit reparties sans rien, soit reparties.
Ça t'arrive beaucoup, ça?
Non, ça m'arrive pas beaucoup. Ça m'arrive quand soit j'ai une cliente qui veut quelque chose de très précis en termes de couleur parce qu'elle a un besoin particulier et malheureusement c'est du vintage. Donc je
oui, parfois, peux pas faire du sur-mesure à 100%.
Et je peux pas appeler mon fournisseur en lui disant je te fais une commande de 50 jeans noirs. Non, ça n'existe pas. Malheureusement, je fluctue avec mes stocks selon ce que je trouve. Ou alors parce que j'ai pas quelque chose qui convient correctement à la cliente et on se le dit toutes les deux. Et je lui dis c'est pas grave, ce sera pour la fois d'après. Et la fois d'après, par contre, elle peut en prendre 2, 3. Parce que c'est tellement dur à trouver que.
Ouais, une fois qu'elle a fait main basse sur son jean qui lui va bien.
Exactement.
Ouais, carrément, quoi. Et comment tu fais avec ton stock? Parce que là, je vois qu'il y en a beaucoup. Et je pense que, en fait, quand tu viens essayer un jean, t'as quand même envie. Je sais pas comment je réagirais s'il y avait moins de jeans, tu vois. Peut-être que les gens se disent qu'il n'y en a pas assez. Et en même temps, toi, ça te fait vachement de stock dormant. T'arrives à les écouler
J'arrive à les faire tourner de manière assez régulière. Ce qui est génial, entre guillemets, dans ce business, c'est que le jean parle à toutes, vraiment, quel que soit ton âge, quel que soit le budget que tu as envie de lui consacrer. Moi, j'ai des clientes, franchement, je pense que ma plus jeune cliente doit avoir 15 ans et ma plus âgée, entre guillemets, c'est pas du tout âgée, parce que c'est presque l'âge de ma mère, mais elle doit avoir 65 ou 70 ans.
C'est génial, ouais.
Donc, en fait, tu te dis, ça touche tout le monde. Et tout le monde a envie d'avoir un joli jean parce que c'est simple.
Tout le monde veut son jean de bonasse, je te comprends.
Exactement. Tout le monde veut son excellent basique. Il y a quand même un énorme boulevard sur ça. J'ai pas trop de stock dormant et c'est aussi ce qui est cool, c'est que, en fait...
T'arrives à vraiment optimiser tes achats et ton stock.
Oui, sur le jean, en fait, ce qui est très cool, c'est que c'est pas du tout un produit de saison. Alors forcément, je te cache pas que la période complètement estivale, je vais un peu moins en vendre. Mais à ma grande surprise, l'an dernier, en juillet, j'ai quand même presque autant vendu de jeans qu'au mois de février.
Ah ouais, c'est dingue.
C'est tellement un produit que tu recherches presque tout le temps qu'en fait, en juillet, tu viens l'acheter pour septembre. Quoi.
Oui, clairement.
Mais c'est pas...
Ça fait partie de tes indispensables du dressing, quel que soit ton style, quel
Exactement.
Que soit ton âge, clairement.
Et donc, du coup, c'est ce qui est quand même cool, c'est qu'en fait, tu vois, les jeans foncés que j'ai pas vendus presque là cet hiver, c'est pas très grave. Je sais que ça va tourner et il n'y a pas trop de produits de saison. Là où vraiment j'admire les marques qui font du neuf et qui travaillent avec des produits de saison et surtout avec des collections. Et en fait, quand la collection est passée, bah, c'est passé.
Est-ce qu'on les admire ou est-ce qu'on
se dit
qu'il est peut-être temps de changer de modèle?
Exactement, parce qu'en fait, tu te dis, moi, ça me frustre toujours un peu quand je vois des très belles marques qui vendent des très beaux vêtements très chers et tu retrouves ça sur les sites Styles, Braderie, tout ça, quelques mois après, à un tiers du prix.
Ouais.
Et tu te dis, mais...
Et ils font encore du bénéfice. Donc
déjà, ils font encore du bénéfice,
bien sûr. Parce que t'as pas le droit de vendre en France à perte.
Et puis, c'est pas toujours justifié, parce que malgré le prix, ce n'est pas forcément toujours des matières hyper nobles. Donc, tu peux avoir de la très belle viscose, entre guillemets, à quelque chose comme 400 euros. Là où, moi, ça me fait un peu halluciner. Enfin, bref, voilà, ces produits de saison... J'avoue que j'ai un peu de mal à les comprendre. Et en tout cas, je suis contente de ne pas en faire partie. Ma seule contrainte, c'est que je vends aussi d'autres pièces comme des manteaux ou des blazers un peu en laine.
Forcément,
style tweed ou des shorts en jean. Donc ça va plus être des produits de saison. Mais c'est pas grave, tu vois, il y a des shorts que j'ai pas écoulés l'été dernier.
Tu les as pour cet été.
Je les ai pour cet été, ouais. Ils sont je vais les ressortir là. Et en fait, c'est aussi un produit qui se démode pas trop.
C'est ce que j'allais dire. En fait, ce qui est génial avec toutes ces pièces, c'est que c'est tellement des indispensables de dressing que quand bien même elles seraient indexées à une saison, en vrai, c'est pas très grave parce que tu peux les ressortir d'une saison à une autre. Qu'elles soient chez toi d'ailleurs ou dans notre placard.
Ouais.
C'est la même... C'est la même vérité.
En vrai, c'est agréable aussi de au moins pas avoir à te faire un sang d'encre sur ça en te disant « bon, ben ça,
oui,
ça j'ai pas réussi à vendre ».
T'es vraiment seule aux manettes, donc c'est quand même un investissement conséquent pour toi d'arriver à faire un stock, de l'acheter avant de le revendre. Quoi.
Ouais,
donc c'est un vrai sujet.
Oui.
Et est-ce que de faire du jean en seconde main et quelques pièces en seconde main, ça t'a, toi, changé des habitudes vestimentaire, voire plus large, ou pas forcément?
Complètement.
C'est une question qui me vient comme ça, qui n'était pas du tout...
qui
sort du chapeau.
En programme. Mais complètement. J'étais déjà, à l'époque, alors moi, je vais avoir 30 ans, et à l'époque, ma mère faisait déjà beaucoup de vide-grenier et tout, donc il y a une vingtaine d'années, quoi. En fait, il y a 20 ans, quand même, aller en vide-grenier, c'était pas du tout bien vu.
Non.
Enfin, si tu veux, tu n'étais pas fancy si t'allais en vide-grenier.
Ah, c'est clair.
Tu n'en parlais pas énormément, et c'était presque un peu... réservé aux gens qui avaient peu de moyens. Enfin...
Peu de moyens, c'était soit les antiquaires, parce qu'ils raflaient les belles pièces et ils les revendaient dans des trucs clairement beaucoup plus jouables que le vide-dressing ou grenier. Ou effectivement à des gens qui avaient peu de moyens, clairement.
Exactement. Ouais. Et en fait, ma mère a toujours aimé ça. Alors, je pense qu'à l'époque, c'était aussi pour peut-être acheter un peu moins cher, parce qu'elle achetait aussi beaucoup de choses pour nous, parce qu'elle avait très bien compris quand même que les fringues pour Minus et les jouets, c'était une bonne option. Et en fait, ça m'a toujours un peu, je pense, donné ce goût du vintage et de la seconde main. Alors par contre, aujourd'hui, forcément, en étant au contact de fringues comme ça, et surtout en m'intéressant de plus près aux matières, tu vois quand même que ce qui était les cotons qui étaient faits en Italie, enfin tu vois, je pense aux chemises, je pense aux blazers, aux manteaux qui étaient fabriqués en Italie, mais ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu voulais t'offrir la même chemise,
la même qualité,
ça te coûterait 300 euros. Enfin, c'est vraiment, on est sur des pièces, je trouve, d'exception à certains moments. Et moi, mais complètement, je pense que j'ai aujourd'hui... Je garde les jeans qui sont abîmés, donc heureusement, et comme ça, je m'en constitue un petit stock. Je n'ai pas racheté un jean depuis presque 3 ans. Je n'ai que des Levi's. Je les mets quasiment tous. J'ai plein de nuances de bleu.
T'en as combien aujourd'hui, tu sais? Est-ce que tu disais que t'en avais une vingtaine avant de te lancer
je te dis 10, donc je dois en avoir un peu plus. Je dois en avoir 12. J'en ai vraiment, je pense, 6-7 que je mets quotidiennement. Et tu vois, ça peut m'arriver de passer, je ne sais pas, 4 jours dans la semaine avec le même jean parce que je lui ai trouvé plusieurs associations.
Non, mais ça, c'est hyper... Tu vois, j'essaye de le faire dans X manières de porter la même pièce. Je pense qu'il y a quelques années, ça choquait encore, tu vois, que tu puisses remettre la même pièce plusieurs jours d'affilée. Je pense que les gens trouvaient ça sale. Maintenant, tu vois, c'est sur l'entretien, on t'explique bien qu'un pull, il ne faut pas le laver toutes les 3 semaines.
Non.
Un jean, c'est pareil, en fait. Là où moi, j'ai plus de mal, typiquement, tu vois, je prends beaucoup le TGV en ce moment, etc. J'avoue que quand je fais un aller-retour à Paris, TGV plus métro, etc., je lave mon jean après parce que j'ai...
Oui, je comprends.
Mais ça m'arrive moi aussi. Et même en story, tu vois, je me montre en général comment je suis habillée le matin. Et en vrai, il y a plusieurs matins où je suis habillée exactement pareil.
Ouais.
Parce qu'en gros, je fais rien de spécial ces jours-là, que je fais du télétravail. Donc autant te dire qu'en gros, ma seule sortie, c'est déposer ma fille à la crèche ou aller la chercher. Donc il n'y a pas un enjeu majeur, tu vois, sur la manière dont je suis. Je mets la même chose, je pense confort et praticité. Et en vrai, je pense qu'il y a encore quelques années, ce n'était pas jouable, tu vois, de se dire « Ah, mais attends, ça fait 2 jours qu'elle est habillée pareil. »
Ouais, ouais,
sachant qu'en plus, je change évidemment la lingerie et éventuellement le petit t-shirt, tu vois, qui vient sous le pull. Donc en réalité, c'est le même pull, mais en vrai, en dessous, je suis douchée et j'ai un t-shirt différent, tu vois. Oui, c'est ça, je suis propre. Donc il y a ça aussi, les mentalités évoluent par rapport à ça.
Oui, les mentalités évoluent et en fait, aujourd'hui, je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin. Hein. Mais je pense qu'on arrive de plus en plus à une consommation qui est plus raisonnée. De manière générale, aujourd'hui, tu consommes moins, tu achètes moins de bouffe, tu voyages moins... Tu veux acheter moins de fringues. Et en fait, il y a quand même une petite prise de conscience. Alors, il y a vraiment encore beaucoup de travail. Mais aujourd'hui, tu as envie déjà d'acheter moins, mais mieux. Ça, je pense que c'est évident pour tout le monde. Tu as envie de porter ta fringue. À l'époque, j'avais partagé quelque chose sur Instagram c'était un article qui disait « Avant d'acheter une fringue, demande-toi si tu vas pouvoir la mettre 30 fois ». Cet hiver, je me suis acheté un pull en cachemire noir au sol, ça faisait longtemps, il m'en fallait un. Tu peux chercher du cachemire noir sur Vinted, tu ne trouves pas.
C'est... Ah ouais.
Non, parce que je pense que c'est tellement basique et ouais. Bon, que les gens ne revendent pas. Donc je l'ai acheté là il y a peut-être 2 mois. Je l'ai déjà mis, mais peut-être 30 fois. Franchement, en fait, il y a des choses que tu vas porter. Et ça, je trouve qu'aujourd'hui, c'est très efficace. Je pense que le jean en fait complètement partie. Après, oui, de temps en temps, tu peux avoir un craquage et ça arrive. Et franchement, il ne faut pas se blâmer pour ça. En fait, juste ton craquage ne doit pas être quotidien. Et selon moi, aujourd'hui, dans ta garde-robe, il faut avoir des pièces que tu peux faire tourner qui vont matcher les unes avec les autres. Et ça, je trouve que c'est hyper important. Et ça va aussi ensuite, toi, mais tellement t'alléger l'esprit.
Non, mais ça, le nombre de fois où ton placard est plein... Et tu ne sais pas comment t'habiller.
Tu t'es dit, j'ai rien à me mettre.
Mais la blague, franchement, c'est indécent, quoi, limite. Enfin, en ce qui me concerne.
Ouais, non, mais je sais. Enfin, moi, la première, je l'ai déjà dit des milliards de fois, j'ai rien à me mettre. Et en fait.
C'est tellement simple après, quand t'as le bon jean qui est bien coupé, avec le petit pull, effectivement, comme tu dis, qui te va bien, etc. Moi, c'est vraiment. C'est aussi pour ça que je partage mes looks en story le matin, parce que tu pourrais dire que c'est hyper nombriliste et totalement inutile. Mais en fait. C'est juste que moi, ça m'aide aussi à rationaliser. Déjà, les jours où je suis en panne d'inspiration, je vais dans mes dossiers à la une, je regarde comment j'ai... Ah bah oui, tiens, c'est vrai que je pourrais remettre ça, etc. En fait, je me fais des panoplies, des trucs hyper simples et je me prends pas la tête.
Ouais,
j'ai plus le temps, de toute façon, de me prendre la tête le matin. Je peux dire que je dois être efficace en 10 minutes TTC, il faut que je sois prête. Donc, douche incluse. Donc, j'ai plus le temps. Et on n'a plus envie, je crois, de ça, finalement.
Non, t'as plus envie parce qu'en fait, aujourd'hui, vraiment par rapport à ce que je te disais, c'est que je pense vraiment que les gens aujourd'hui ont plus envie de collectionner comme à un moment. C'était même pas l'époque de nos parents, parce que mes parents, moi, ils n'étaient pas du tout des collectionneurs non plus de fringues, mais tu vois, il y a eu un moment, un entre-deux, où si, on était dans la surconsommation, parce que fast fashion, parce que c'était pratique, facile. Et c'est ça aussi.
Euphorisant. Et en fait, c'est ça que j'aime avec numéro 2, c'est que pour moi, tu crées un modèle réjouissant en seconde main. C'est-à-dire que quand on parle du moins mais mieux, on voit ça principalement comme une contrainte, on voit ça comme un défi éventuellement, on voit ça comme un coût supplémentaire, parce que moins mais mieux, ça veut dire qu'effectivement, tu vas payer plus cher la pièce que tu t'apprêtes à acheter. Il y a un petit côté révoltant finalement, où tu te dis « Ah ouais, donc moi je suis là à pas prendre l'avion, à faire attention à ce que je mange, à faire ci, à faire ça, à acheter moins de fringues, mais c'est toujours à moi de faire l'effort, donc ça finit quand même par être un peu crispant et fatigant. Et puis au-delà de ça, il y a une réalité de pouvoir d'achat qui est que ben, il y a plein de personnes qui ne peuvent pas mettre, par exemple, 50 balles dans un t-shirt en coton bio parce que l'investissement de base est quand même hyper élevé.
Oui.
Mais finalement, ce qui est génial avec numéro 2, c'est que tu écris une nouvelle histoire positive parce que c'est une nouvelle vie, c'est un numéro 2, c'est quelque chose qui se transmet. Donc, c'est génial, c'est positif et c'est accessible parce que ton prix, je crois que c'est 95€ pour un jean avec la consultation d'une heure minimum. Bah, n'empêche que oui, alors... Tout le monde ne met pas 95 balles dans un jean. Hein. J'ai bien conscience qu'ils ne sont pas à ce prix-là, encore une fois, chez l'ami espagnol et encore pire, chez les sous-sous fast fashion.
Ouais.
Mais globalement, ça reste quelque chose, effectivement, où tu vas, comme tu vas prendre du temps pour trouver quelque chose qui te va vraiment bien, finalement, tu investis plus aussi ton achat.
Oui.
Et tu noues, tu vois une histoire avec cet achat qui est complètement différente. Et en plus, tu passes un bon moment parce que tu vois, le showroom, il est accueillant, il est confortable. Tu as quand même toi qui guide dans l'achat et qui va donner tous tes conseils. Et je pense que voilà, on a envie de ça aussi. On a envie de quelque chose de raisonné, certes, mais qui reste un plaisir et qui reste quelque chose d'agréable. Donc ça, pour moi, numéro 2, c'est gagné.
C'est ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, tu vois, quand mes clientes, elles viennent, c'est comme, je trouve, hein, que t'es pas du tout dans une démarche de boutique ou d'achat. Enfin, tu vois, moi, je me place pas du tout comme une vendeuse. Je veux vraiment que l'expérience client soit différente. Et elle l'est parce qu'avec mes clientes, on se tutoie. Elles rentrent, je me présente et je propose qu'on se tutoie. J'ai jamais eu de refus jusque-là. Et on commence à discuter. Tu vois, il y a des moments où on va essayer le jean sur les 10 dernières minutes parce qu'on s'est raconté...
Ça me rappelle quelque chose.
Ouais, exactement. Non, mais on s'est raconté des trucs. On parle de... J'ai une cliente toulousaine qui vient, elle est de passage à Paris, on discute pendant 40 minutes de Toulouse et les 5 dernières minutes, je lui dis il faut quand même qu'on essaye un jean.
Enfin,
tu es venue pour ça. On parle de postpartum, on parle de l'accouchement, on parle de plein de trucs et en fait, alors c'est pas tout le temps, mais il y a un truc un peu de tu viens passer 3 quarts d'heure presque avec une copine, t'essayes, on regarde ce qui te va bien. Moi, je me place comme ta meilleure pote en te disant ça c'est OK, ça c'est pas OK du tout et j'ai quand même pas mal de clientes qui reviennent. Et du coup,
ouais, ça c'est un super indicateur.
Ouais, et qui reviennent et qui me disent, tu vois, j'ai eu une cliente il y a pas très longtemps qui a une 50aine d'années qui m'a dit « Tu m'as complètement convaincue d'arrêter les slims. » Et elle me dit « Je me sens trop incroyable. Bien dans les jeans que j'ai achetés chez toi. » Et en plus de ça, elle est dentiste, donc bon, je sais
qu'on... Voire d'achat plutôt confortable.
Donc je sais qu'elle pourrait vraiment s'offrir des jeans plus onéreux. Et en fait, tu te dis... Mais
c'est
là,
une belle récompense.
Ouais, ouais. Là, je suis contente parce que j'ai l'impression d'avoir vraiment réussi à ma petite échelle un truc. Et ça, je trouve que c'est très cool.
Une question que je voulais te poser aussi avant qu'on termine, c'est est-ce que tu as des conseils à donner pour bien entretenir son jean?
Je trouve qu'il ne faut pas trop le laver, mais je ne sais même pas si c'est une vérité. Tu vois, moi, les miens, à titre perso, je les lave quand je remarque qu'ils sont sales. Je sais qu'ils ont un aspect presque
un peu lustré.
Ouais, ouais, voilà. Ouais. Je les aère, sinon, parce qu'il y a les odeurs de club, de bouffe que je ne supporte pas. Le laver à l'envers, c'est mon meilleur conseil, je pense. Parce que la lessive, plus le fait, on blinde nos machines normales, parce que c'est un plaisir pour personne. Hein. En fait, la lessive va laisser des traces blanches si tu le laves à l'endroit.
Quelle que soit la lessive, même une liquide ou...
Je sais pas. Je pense qu'il y a des lessives qui sont peut-être plus spécifiques pour le jean, mais...
Non, mais même, tu vois, je me dis les traces blanches, pour moi, c'est plutôt la poudre, mais j'en sais rien.
Ouais, mais...
En tout cas, laver à l'envers, quoi.
Ouais, laver à l'envers. Et non, après, j'ai pas d'entretien...
spécifique, quoi.
Non, spécifique. Le jean se détache très bien avec du savon de Marseille et du vanish. Je n'ai rien trouvé de mieux pour l'instant. Et après, non, et c'est aussi ce qui est bien, c'est que normalement, il n'a pas besoin de trop d'entretien, quoi.
Ouais. Chloé, je t'ai connue donc, dans ce fameux appartement perso que tu avais. Aujourd'hui, on est dans ton showroom. Ce serait quoi tes souhaits et tes envies pour demain ?
Je pense que mes souhaits et envies, ce serait de continuer numéro 2. Peut-être de proposer quelque chose de complémentaire. Je suis aussi en train d'y réfléchir. Quelque chose qui sorte un peu de ce qu'on peut trouver à l'heure actuelle, mais qui aide aussi pas mal mes clientes. Je me rends compte que c'est ce que j'aime beaucoup dans ce que je fais, c'est que je vois que j'en aide beaucoup certaines. Et ça, c'est
gratifiant quand même.
Exactement. C'est un plaisir énorme. Donc voilà, ce serait peut-être d'ajouter quelque chose de plus à ça. Et ensuite, ce serait sûrement d'avoir un autre lieu, je pense, d'ici peut-être quelques temps, mais plus grand, différent, quoi. Tu vois, peut-être toujours sur Paris, peut-être ailleurs, je sais pas. Mais,
à Toulon, s'il te plaît. Ouais, Toulon, il y a un boulevard à Toulon, il y a beaucoup de choses.
Non, ce serait d'avoir quelque chose... Oui, t'as toujours envie d'avoir quelque chose de différent par rapport à ce que tu viens tout juste d'avoir. Mais non, pour l'instant, c'est très cool. Et ce showroom est...
C'est un bon, une bonne suite pour l'aventure numéro 2. Ouais.
Oui, pour l'instant, c'est une très bonne suite. À voir.
Trop bien.
Ouais.
Pour finir, j'ai deux questions à te poser. C'est un podcast qui traite d'une consommation raisonnée et joyeuse et plus responsable, évidemment, au sens large. Qu'est-ce que toi, t'es la plus fière d'avoir accompli jusqu'à présent, que ce soit sur un plan perso ou pro ?
À titre pro, c'est d'avoir réussi à, entre guillemets, même si j'aime pas dire ça, c'est vraiment que je me jette des fleurs, mais d'avoir créé quelque chose, je pense, que j'arrivais pas à trouver moi sur le marché.
Non, mais attends, déjà, faut qu'on arrête avec ce... Tu vois, là, c'est le petit syndrome de l'imposteur qui revient gentiment. Ouais. Non, mais en fait, ça, c'est un truc qui me rend dingue. Je me définissais pas trop comme féministe jusqu'à présent parce que j'avais une image assez erronée du féminisme à base de chiennes de garde, etc. Et que je me reconnaissais pas dans ces profils-là, ce qui est très con parce que c'est loin de résumer le féminisme. Bref, on va pas s'embarquer sur cette voie-là parce que ça va durer 3 heures. Mais globalement, je constate quand même par ma propre expérience, parce que moi non plus, j'ai pas du tout confiance en moi. À chaque fois que je fais quelque chose, je me dis « Ouais, mais il y a rien de fou, ça a déjà été fait. » Ou si ça a pas été fait comme numéro 2, tu vois. Ou moi, quand j'ai ouvert mon showroom chez Didi, tu vois, je me disais « Oui, bon, bah ça va, c'est pas non plus l'invention du siècle, tu vois. » Donc certes, c'est pas l'invention du siècle, mais c'est très féminin, en fait, d'avoir un syndrome de l'imposteur. Et tu vois, limite de s'excuser et de dire « Ouais, bah si, en fait, tu vois, je suis fière. » Je suis fière d'avoir monté chez Didi ou d'autres trucs, c'est un exemple comme un autre. Toi, tu peux être fière, je pense, tu vois, d'avoir monté numéro 2. Donc, assume, c'est super.
Ouais, non, c'est vrai, t'as complètement raison. Je pense que du coup, c'est d'avoir réussi à créer quelque chose de différent. Et j'en ai beaucoup qui m'en parlent en me disant « mais c'est génial ce concept,
c'est super.
Je connaissais pas ».
Et tu sais que moi, et je remercie aussi les abonnés qui nous écoutent et qui m'ont fait confiance, je reçois mais super régulièrement, quand je te dis régulièrement, c'est au moins 2 fois par semaine, des messages qui me disent « ah, by the way, je tiens à te remercier, grâce à toi, j'ai pris rendez-vous avec Chloé chez numéro 2, j'ai adoré l'expérience, je suis repartie avec ça, machin ». Et je trouve ça génial aussi, tu vois, ça prouve. Déjà, je les remercie parce que je trouve ça génial de me faire confiance. C'est très touchant. Et au-delà de ça, j'ai pas trahi leur confiance. C'est vraiment une expérience qui leur a plu et je trouve ça chouette de m'en faire part. Et au-delà de ça, ça prouve aussi que toi, tu remplis vraiment une attente qui n'existait effectivement pas jusqu'à présent ou pas sous cette forme-là. Donc, c'est génial.
Oui, je suis d'accord.
Tu peux être fière, tu vois.
Oui. C'est toujours très dur.
Tu t'accroches.
C'est toujours très dur à dire, je suis très fière de moi. Non, c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve très gratifiant et de me dire oui, j'ai réussi à le faire, je l'ai fait toute seule, je continue de le faire toute seule. Et je pense, à titre plus global, c'est d'avoir posé... Alors, j'ai pas posé madame, j'aurais adoré poser madame comme une grande, mais non, j'ai négocié une petite rupture co, mais c'était de me dire, franchement, la vérité, c'est quand même que j'ai pas écouté les gens autour de moi parce qu'il y en avait beaucoup qui disaient, non mais attends, elle lâche son CDI pour aller vendre des jeans, oula, dont les premiers ont été mes parents, à ne pas trop kiffer le projet, bien sûr. Et puis,
évidemment.
T'as plein de gens qui te disent, alors nous, on est une famille d'entrepreneurs, moi, il n'y a pas de génération en génération. J'ai voulu faire un truc qui m'animait parce que j'aimais les fringues, parce que je ne me retrouvais pas dans l'offre qui était proposée. Je t'avoue que je n'avais pas non plus hyper étudié la question. Je me suis dit, je me lance, je minimise les risques. Et on verra après. Et je pense que c'est aussi pour ça que je n'ai pas trop réfléchi. Et je ne me suis pas dit,
je vais faire un business plan en amont.
J'avais fait un truc, mais c'était pas l'histoire du siècle. Et c'est de te dire, en fait, en vrai, je me suis fait confiance et je le sentais. Et du coup, j'y suis allée. Et ça, je le remarque quand j'en discute autour de moi. Des fois, j'en discute avec des clientes qui ont, 20 ans de plus que moi, qui me disent, mais en fait, tu as monté ta boîte, mais tu es très jeune. Et c'est vrai que toi, quand tu le vois, tu te dis pas, je suis
t'as
très
pas
jeune.
Cette sensation
non,
là, bien
pas
sûr,
du tout. Hein. Tu te dis, oui, j'ai monté ma boîte parce que j'avais pas de gamin, j'avais malheureusement pas de crédit parce qu'à Paris, t'achètes pas d'appartement. Mmh. Mais du coup, je l'ai fait. Et là, aujourd'hui, tu regrettes pas. Tu regrettes jamais, je pense, d'avoir monté ta boîte. Dans tous les cas, si ça marche, t'es très content. Et
si ça marche pas, de pas avoir pris le risque.
Ouais, parce que t'as appris, parce que t'as sûrement compris ton erreur et que ça te sert toujours pour ton parcours.
D'une manière ou d'une autre. Ouais. Et qu'est-ce que tu aimerais améliorer encore aujourd'hui ?
Ce que j'aimerais améliorer, je pense, de manière générale, c'est un peu bateau de dire ça, mais mon quotidien, il y a des tâches que je fais qui sont parfois un peu lourdes et qui, du coup, m'empêchent de plus me consacrer à d'autres qui, pour le coup, dans lesquelles je prends beaucoup de plaisir. J'adore être en rendez-vous, j'adore partager en fait, ce que me transmettent mes clientes sur les réseaux et tout, mais tout ça te prend énormément de temps et quand tu es tout seul, c'est très compliqué. Et en fait, passer 4 heures à détacher des jeans, tu kiffes pas énormément.
Chaque boulot a son lot de tâches ingrates, mais c'est sûr que c'est bien d'arriver à les équilibrer avec le reste.
Exactement. Mm. Et je pense que j'aimerais améliorer, c'est un peu... je vois qu'à des moments, quand je partage des choses sur Instagram, tu vois, notamment, il y a un truc que j'avais fait, mais comme ça... sans vraiment me poser la question, quand je partais en vacances, je faisais des très grosses valises. Voilà, des énormes valises de 20 kilos pour une semaine. Et en fait, là, j'en suis venue à un moment où je me suis dit, en fait, quand tu pars en week-end en vacances, tu veux être bien habillée, confortable. En fait, il faut que tout marche ensemble. Et tu n'as pas besoin d'avoir 4 paires de chaussures pour 2 jours. Tu n'as pas besoin d'avoir le trop beau chemisier qui ne va pas se voir. Enfin, et donc, j'ai partagé ma valise que j'ai faite pour 2 jours et j'ai eu énormément de retours. Tu vois, en disant, mais en fait, merci, grâce à toi, je fais une meilleure valise, je me prends moins la tête et tout. Et en fait, tu te dis, c'est tout simple à faire, ça te prend du temps, hein, bien sûr, de faire ça sur Instagram, mais et tu te dis, ça, c'est trop cool d'aider, tu vois, un peu comme toi quand tu portes un pantalon et que tu fais 5 tenues. J'aime bien véhiculer ce conseil et de te dire, en fait, ça aide les gens. Enfin, vraiment, ce partage et voilà.
Super. Merci mille fois, Chloé.
Merci à toi.
D'avoir dit tout ça, de nous avoir livré toutes ces infos. C'est hyper intéressant. Je te souhaite le meilleur pour la suite. Merci à nous tous de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous aura intéressé. Vous pouvez retrouver Chloé sur son compte Instagram numéro 2 et sur son site internet numéro 2 également. Je vous mettrai évidemment tous les liens, toutes les infos et puis évidemment quelques petites sources qui ont été utiles pour l'élaboration de cet épisode. Il y a notamment un livre qui s'appelle Unraveled, The Life and Death of a Garment, qui a été publié. Un livre hyper intéressant sur le parcours d'une paire de jeans d'une femme cotonnière du Texas aux entrepôts d'Amazon. Évidemment, passant par les ateliers de couture. Donc bref, pas mal de sources assez cool pour creuser le sujet de la seconde main et en particulier du jean. À bientôt. Merci pour votre écoute. Si vous avez envie de soutenir le podcast, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles. Rendez-vous sur le compte Instagram Les Rencontres du Grand Large pour me faire part de vos commentaires, vos avis et vos envies. À bientôt pour un nouvel épisode.